L'histoire du clodo est bizarrement très peu connue. C'est honnêtement, en faisant les recherches pour cette émission, même en cherchant dans les archives de l'INA et tout ça, il y a très 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 peu d'informations. Il y a juste une brève que j'ai trouvée dans un journal télévisé là-dessus et sur un journal de France Inter. C'est une conférence lors du THSF, suivie d'une exposition l'année suivante, qui nous a donné envie de rouvrir le dossier, du coup, puisqu'il y avait quelqu'un qui vraiment s'y est intéressé, s'est vraiment documenté là-dessus, et plus exactement de recevoir la personne qui s'est replongée dedans. Nous recevons donc Célia Izoard, journaliste indépendante, contributrice à la revue Z, traductrice d'ouvrages critiques sur la technologie, et défavorablement connue des services de police. C'est pour ça qu'il fallait mettre la musique de « Faites entrer l'accusé ». Je suis franchement désolé de cet effet de manche. Gaël, c'est toi qui mène.
Merci. Bon, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, elle commence le 5 avril 1980, quand un incendie détruit les installations informatiques de l'usine Philips, l'entreprise Philips à Toulouse. Trois jours plus tard, rebelote à CII Honeywell Bull, qui est l'une des entreprises emblématiques informatiques en France,
à l'époque.
Une organisation revendique ses actions, c'est le comité liquidant ou détournant les ordinateurs, le Clodo. Dans l'un de ses premiers communiqués, elle déclare « Nous sommes les travailleurs de l'informatique, bien placés pour connaître les dangers actuels et futurs de l'informatique et de la télématique. L'ordinateur est l'outil préféré des dominants, il sert à exploiter, à ficher, à contrôler et à réprimer. Nous ne voulons pas nous enfermer dans un ghetto de programmes et des plateformes organisationnelles. Lutter contre toutes les dominations, est notre objectif. Dans une société de plus en plus invivable, nous sommes un groupe de révoltés comme il en existe des centaines. » Donc aujourd'hui, comme Xavier l'a dit, avec nous pour en discuter, Célia Izoard, parce qu'elle a écrit un article très documenté sur le clodo, qui est paru en 2010 dans le recueil « Ludite en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation », qui est paru aux éditions L'Échappée. Célia, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer que Toulouse a été au centre de cette révolte anti-informatique, donc dans les années 80 ?
Alors, Toulouse était au centre de ça par sa fonction industrielle, puisque à l'après-guerre, donc à la fin des années 60, au moment où le plan calcul est lancé, ce serait intéressant d'en reparler, c'est-à-dire la naissance de l'informatique à la française, 1966, le général de Gaulle lance le grand programme national de développement de l'informatique, qui va être destiné, tout d'abord, il faut se souvenir de cette histoire très récente, à développer la bombe atomique, la bombe A, puisque les États-Unis ont refusé de livrer l'ordinateur suffisamment puissant à la France.
Et rattraper le retard technologique par rapport aux États-Unis.
Et rentrer dans le ballet des grandes puissances, etc. Donc, et à la fin des années 60, l'aérospatial et le développement de l'informatique concomitant est installé par l'État dans le cadre de la décentralisation à Toulouse. Donc Toulouse devient à partir de ce moment-là une des capitales françaises de l'informatique, de l'électronique embarquée, ce qu'elle est restée avec Grenoble.
Ok. Du coup, une concentration dès cette époque de nombreux ingénieurs, enfin nombreux, il y en a 100 000, 300 000 dans les années 80.
Voilà, alors ça c'est pour la France. En 69, effectivement, c'est la période où cette profession se développe très très fortement. En 69, il y en a 100 000. 10 ans plus tard, 79, il y en a 300 000. C'est de cette caste professionnelle que sont issus les gens du clodo.
Voilà, ils se revendiquent comme informaticiens eux-mêmes.
Ils disent qu'ils sont informaticiens, et comme vous l'avez lu, voilà.
Alors, comment, j'ai parlé de leurs deux premières actions. Quel est leur tableau de chasse, on va dire?
Alors, tableau de chasse du clodo est... Quelque chose. Alors, je peux vous continuer un peu la liste que vous avez commencé tout de suite. Alors, avril 80, donc un incendie de Philips. Ensuite, Honeywell Bull, pareil, avril 80. Mai 80, International Computer Limited, pareil, un incendie. Cap Sogeti, au moment du CICOB, en septembre 1980.
Le CICOB, qui est un salon,
c'est vrai, d'informatique professionnelle, mais qui était surtout très lié à l'armée au bout d'un moment, si je me trompe.
D'accord.
Où il y avait pas mal d'industriels qui en étaient relativement proches.
Ok. Donc un message à l'armée et au milieu.
Mais tout à fait, oui. Mmh. Et c'est à ce moment-là, c'est aussi l'occasion d'un grand moment de célébration de l'informatique dans la presse, puisque, comme moi je le montre dans mon travail, il y a vraiment un travail, disons, idéologique très, très fort au moment de l'informatisation du pays. Il y a des dates charnières.
Surtout que ça reste une informatique qui est une mini-informatique, qui n'est pas franchement accessible aux PME, PMI à ce moment-là. Donc c'est aussi les groupes du CAC 40 qui mettent les moyens, donc leurs services de communication. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a un tapis de communication à ce moment-là, justement, sur cet avenir.
On veut informatiser, quoi.
Voilà. Ensuite, donc, 3 ans plus tard, un gros attentat, janvier 83, c'est le centre informatique de la préfecture de Haute-Garonne qui est soufflé par 3 charges d'explosifs.
Donc là, on parle grosse destruction. Avec c'est pas juste des petits incendies. C'est
énormément de dégâts. Hein. À l'époque, 30 millions de francs.
Okay.
Et un peu plus tard, la même année... pareil, 2 entreprises américaines, une qui fait des caisses enregistreuses, une autre qui fait du logiciel, sont incendiées. Et donc, à chaque fois, avec des messages plutôt drôles. En fait, le Clodo, c'est un groupe assez typique de la mouvance anarcho-libertaire qui existe à cette époque-là à Toulouse, dont Action Directe, le groupe armé, est plutôt une exception. À l'époque, le milieu, disons, libertaire à Toulouse, c'est beaucoup de blagues, beaucoup de canulars.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts physiques, mais en fait, il n'y a pas de dégâts corporels.
Alors, ça, c'est évidemment volontaire. C'est
délibéré. Oui, mais c'est ça qui est impressionnant aussi là-dessus.
Et à cette époque, comme je note, on en parlait tout à l'heure, c'est assez frappant. On trouve des déclarations de la préfecture qui dit, bon, ce sont des attentats non violents, ce sont des actions non violentes. C'est-à-dire qu'on peut faire exploser le centre informatique de Haute-Garonne et être considéré comme un militant non violent. Ce qui nous donne vraiment à penser. Le mot terroriste, par ailleurs, n'est jamais employé. Hein.
Oui.
J'ai trouvé à aucun moment.
Ah, on parle d'attentat ou on parle juste de
on parle d'attentat.
Quand même, d'accord.
Mais j'ai vu, voilà, action non violente, plutôt dans la dérision, qui font rire, qui font sourire. Le Clodo suscite, en fait, pas mal de sympathie.
Et est-ce que, du coup, les pouvoirs publics mettent les moyens, le paquet pour les attraper ou bon, pas trop, parce que, justement, il y a un peu de sympathie, puis ils tuent personne au final, donc...
Alors, à en croire la dépêche, parce que moi, il y a très peu de sources, rien n'a été écrit là-dessus avant, donc moi j'ai beaucoup épluché les journaux locaux et les journaux nationaux. Et à en croire la dépêche, ils font pas grand-chose, quoi. Il y a une pression de la part de l'industrie pour que l'État fasse quelque chose. Mais en fait, c'est plutôt les boîtes qui vont se payer, des vigiles privés qui vont sécuriser leur site. Parce qu'il y a une vraie frayeur psychose, qui se répand, il y a une vraie psychose. On protège beaucoup les bâtiments du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et ce genre de sites, qui sont des cibles évidentes, pour plein d'autres raisons dont on pourrait parler, puisque c'est vraiment le moment aussi de la lutte contre la construction de la centrale nucléaire de Golfech, qui va vraiment susciter, là aussi, un déferlement d'actions de tout registre et aussi d'attentats explosifs.
Il y aurait des liens d'ailleurs entre les explosifs qui auraient été utilisés pour les 2 sortes d'actions anti-informatiques et anti-nucléaires.
Oui, voilà. Oui. On peut imaginer que ça émane du même type de milieu, du même type de militant, ce qui est intéressant parce que la critique du Clodo, on peut la penser en lien avec la critique de la société nucléarisée. Elle participe d'une même critique de la bureaucratisation. Du pouvoir de l'État, du pouvoir des grandes structures.
D'accord. Mais alors justement, avant d'aller sur leurs revendications et sur le message qu'ils voulaient porter en faisant exploser, en incendiant tout ça, au final, on sait qui c'est, on les a retrouvés, on les a pas retrouvés. Le Clodo court-il toujours ?
Alors le Clodo peut très bien être en train de nous écouter à l'heure qu'il est. Et on espère. Bonjour.
Oh non.
Parce qu'ils n'ont jamais été attrapés, non. Et en même temps, ils ont duré sous cette appellation un certain temps seulement, puisque les actions dont on parle, c'est 1980-1983. Et après, ça se termine, et c'est significatif. Bon, c'est là aussi un clin d'œil. La dernière action a lieu en décembre 1983, comme le note un des journalistes.
Ah, juste avant 1984.
Elle est signée « Clodo and Little Sisters ». Le Clodo est la petite sœur de Big Brother.
Okay. Ça, je le savais pas.
D'accord.
Et donc, on est à quelques jours de 1984. Donc, une référence.
Bon, donc, ils avaient vraiment prévu, justement, de marquer un coup d'éclat et d'arrêter ça. C'est surprenant, quoi.
Est-ce qu'ils avaient vraiment prévu d'arrêter on va peut-être pas tout mélanger. On reviendra après sur pourquoi ça s'est arrêté. avant de savoir pourquoi ils sont arrêtés, pourquoi ils faisaient ça, en fait? Parce que, bon, j'ai lu leur premier communiqué où... Ils expliquent qu'ils considèrent l'informatique comme un outil au service des dominants. Est-ce qu'on peut se remettre dans le contexte de l'informatisation naissante ? et expliquer qu'est-ce qui les fait se lutter en fait.
Alors,
vaste sujet. Vous avez 2 heures.
Merci. Le Clodo a écrit relativement peu de textes. Mm-hmm. Ils ont fait une auto-interview qu'ils ont envoyée à un journal à l'époque qui était
Terminal,
mm-hmm. un journal intéressant à l'époque sur l'informatique, assez critique.
La mini-informatique, c'est l'informatique industrielle, c'est pas l'informatique familiale ou quoi que ce soit. C'est lu par des décisionnaires dans ce secteur et par des professionnels.
Non, c'est une revue de critique sociale qui a vraiment parlé de toutes mm-hmm. les phases de l'informatique et qui traitait de la chose en général avec des dossiers un peu spécifiques, mm-hmm. de bonne facture, hein, qui... Et donc le Clodo leur envoie une auto-interview où ils se démarquent des ludites. Ils disent mais d'accord. Notre situation c'est pas les ludites quoi. Alors moi je vais expliquer ce qu'on appelle le ludisme, les ludites hein, avant toute chose parce mm-hmm. que ça me semble important. Vous en avez parlé tout à l'heure.
J'avais dit beaucoup de conneries. Ouais.
Non mais alors il faut préciser. Vous avez raison de resituer la chose à l'émergence de la société de la révolution industrielle mm-hmm. en Grande-Bretagne, mm-hmm. pardon. Donc fin 18e, il y a eu à cette époque-là énormément d'actions qui ont été menées contre l'industrie naissante qu'on appelait à l'époque la nouvelle économie, c'est-à-dire la naissance du capitalisme sous la forme qu'on connaît aujourd'hui en grande partie. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, les révoltes ludites des années 1810 sont plutôt la fin d'un grand mouvement qui va durer plusieurs décennies et même presque un siècle contre l'introduction de systèmes de type mécanique, plutôt la fin que le début. Ce qui caractérise l'époque disons contemporaine, c'est que justement la technologie fait beaucoup moins l'objet d'une réflexion politique et morale et qu'elle a été plutôt considérée comme un donné, chose qui découlait d'une évolution, disons, naturalisée.
Positive.
Et vue comme positive, mm-hmm. puisque c'est l'avancée du progrès. Mm-hmm. Donc, non, les ludites, c'est plutôt la fin d'une époque, presque, on pourrait dire. Mm-hmm. Et donc, eux, ils se revendiquaient du général Lude, et ils avaient eu l'intelligence de se revendiquer d'un personnage imaginaire. Il n'a jamais existé, d'accord, le général Lodge, Ned Lodge. Il était un cri de ralliement. Donc c'était voilà, une manière de...
Et qu'est-ce qui les différencie de nos néoludites toulousains, du coup, si on peut les appeler comme ça?
Alors, la grande différence, c'est le type de société dans laquelle ils vivaient et les uns vivaient. Alors, les ludites, ils protégeaient, disons, un type d'économie, hein, l'économie, ce que Thomson appelle l'économie morale. C'est donc, une économie artisanale, paysanne, qui, en fait... Et souvent, enfin, a pris des formes très très diverses, mais dans plusieurs régions de l'Angleterre, était parfois beaucoup moins violente socialement que ce qui allait ensuite déferler comme étant la grande industrie, que okay. Marx et Engels ont détruit, etc. On décrit. Et donc, eux, ils cassaient les machines, mais ils faisaient aussi toutes sortes d'émeutes et de manifestations auxquelles participait la population d'alors, hein, les paysans, les artisans, différents corps de métiers. Contre, il y a eu des choses, beaucoup de choses dans le tissage, le filage, le tondage de la laine. Et à chaque fois, ce qui était en jeu, c'était la capacité des travailleurs à exercer, disons, une maîtrise sur leur métier. Que ce soit et le respect des corporations. Mm-hmm. Ce serait un peu long à expliquer, alors on pourrait peut-être y revenir tout à l'heure, parce que là, je ne vais pas m'amuser à vous faire un cours sur...
On peut renvoyer vers la page de l'émission. Si vous avez des liens intéressants, justement, on va les intégrer là-dessus.
Voilà. En tout cas, donc c'est une critique de la technologie en tant qu'elle est liée au capitalisme.
D'accord.
Et qu'elle va détruire des techniques existantes, des pratiques existantes, des modes de vie et une organisation sociale.
Alors que, du coup, le Clodo ?
Alors, le Clodo ne peut pas défendre une organisation sociale, des pratiques, des métiers, des modes de vie, puisqu'il a les mêmes que tout le monde. Mm-hmm. Ce sont des ingénieurs, informaticiens. Oui. donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être envoyés à quelque chose de rétro, d'un peu bucolique. Comme vous parliez tout à l'heure des Amish. Bon, bah, ça, c'est quand même assez lointain. Hein. On est dans un imaginaire qui est un imaginaire de critique de l'économie dominante. Et c'est des gens qui sont dedans, qui sont pris dedans, qui travaillent et qui considèrent que pour attaquer réellement le système tel qu'il existe, il faut voir en face ce que c'est que l'informatique et ce que c'est en train de produire.
Mais ils rejettent l'outil ou l'usage qui est fait de l'outil ?
Alors, ça, c'est une question qui est finalement très moderne. La manière de différencier la chose de son usage ou la chose de ses applications, c'est une manière de faire de la question quelque chose d'assez abstrait.
Donc, qu'il ne se posait pas à l'époque, du coup.
On va en parler après la coupure.
Non, il faut parler de ça, c'est très intéressant. Disons que c'est presque un slogan maintenant. On dit, oui, on peut critiquer les usages de ce que vous voulez, la biométrie, la robotique, mais on ne va pas critiquer la biométrie en soi, on ne va pas critiquer la robotique en soi. Mais non, mais il n'y a pas vraiment de différence entre quelque chose et ses applications. Ses applications, c'est la manière dont elles se manifestent dans la vraie vie. Donc, on critique les applications et logiquement, on critique la chose via ses applications. Oui. Alors, si vous voulez, on peut faire un exercice d'abstraction et dire, dans un monde totalement libéré, fonctionnant selon des logiques de distribution totalement étrangères, on aurait une robotique, on aurait une informatique qui serait différente. Moi, je veux bien rêver ça avec vous. Je suis tout à fait disposée à le faire. Mais on parle de ce monde-là et de ces applications-là. Eux, ils voient ce qui se passe dans leur boulot. Ils voient ce à quoi vont servir les programmes qu'ils conçoivent. Et ils voient que ces programmes, ils servent à, en fait, à rendre la main-d'œuvre beaucoup plus docile par rapport au patronat.
D'accord. Donc, c'est une prise de conscience de leur propre... que leur travail... Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, quoi.
Voilà. Donc, nous sommes toujours... dans CPU avec Célia Izoard qui est journaliste à la revue Z pour parler de Clodo et donc ce terrorisme pucicide, voilà, mais c'est terrifiant de dire des trucs pareils.
Bon, du coup, des attentats, des destructions, des revendications, une différence entre les néoludites et les ludites plutôt et le clodo. Quel écho au final, à part de la sympathie qu'on évoquait tout à l'heure, quel impact ils ont dans la société française à cette époque-là? Est-ce que ça porte en fait les idées du clodo? À part dire, ah, ils sont gentils, ils cassent des ordis.
L'impact, il s'inscrit dans quelque chose qui se termine. C'est-à-dire que, c'est un peu ce que je disais sur le lutte tout à l'heure, vous m'excusez, mais c'est la même logique. C'est-à-dire que les clodos, ils arrivent en 80, ils terminent en 83, et c'est jamais trop tard pour se révolter, c'est pas la question. Mais ils arrivent à la fin d'une sorte de pseudo-débat national sur l'informatisation. Et il y a eu des mobilisations, et ça aussi, enfin, quand j'ai commencé cette enquête, j'étais... assez frappé de voir qu'il y avait un groupe là, pour rappeler un peu, donc le clodo qui va exploser ou incendier des usines informatiques et de logiciels qui fait la une de tous les journaux à l'époque, encore un attentat du clodo, Libération, Le Monde, tout ça, et qu'on a complètement oublié. Ça en dit quand même assez long sur notre mémoire collective, c'est étonnant. Et faire ce travail-là, donc à travers les archives de presse, ça m'a permis aussi de regarder le fait qu'il y avait eu quand même beaucoup de résistance et de réactions de mobilisation face à l'informatisation de différentes branches du travail, de différents secteurs. Et que les années 70 et 80 avaient été marquées par un travail très très intense de la part de l'industrie, en tout cas de créer un capital sympathie pour l'informatique, qui va se terminer par la diffusion de l'informatique dans les foyers même, ce qui était au début hors de question, et qui va être d'ailleurs orchestré au niveau étatique par la distribution gratuite des Minitel en 83.
On ne savait pas trop pourquoi leur donner l'ordinateur, mais il fallait le faire en tout cas. Enfin, ils disaient ça va créer une demande ou un besoin. Et...
C'est ça, c'est vraiment la tonalité. Après, on va reparler des grèves et des mobilisations, mais la tonalité de l'arrivée de la micro-informatique dans les foyers, c'est beaucoup... Il n'y a pas de demande. Comment susciter de la demande? Les gens ne disent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent rien. Est-ce qu'ils veulent un annuaire à la maison? Et j'ai été très frappée. En 1979, il y a un grand colloque national sur l'informatique et présidé par le président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing. Et pour prendre un peu la mesure de la nécessité déjà d'organiser un tel débat, c'est lié au fait qu'il y a une tension. Il y a une vraie tension politique. Il y a vraiment une nécessité d'idéologie, de propagande, de réflexion, on pourrait dire. Je dis propagande parce qu'en fait, la société n'a pas participé à ce débat. Ce débat a eu lieu entre élites.
D'accord.
Pas du tout. Débat démocratique. Et Giscard dit, attention, je suis bien conscient des dangers de l'informatique. Et la preuve que je suis bien conscient des dangers de l'informatique, c'est qu'on ne voudrait surtout pas arriver à créer une situation où chacun pourrait avoir accès à un écran chez lui qui lui donnerait accès à tous les savoirs, toutes les mémoires.
C'est vrai. Ah, oui. Il s'est bien planté, alors, pour le coup.
Il décrit, clairement, il n'a pas réalisé la puissance d'une telle chose, quoi. Et il décrit très parfaitement l'Internet.
Il a trop bien réalisé ce que cela sous-entendait, oui.
Ouais. Et donc, et cet argument, ça sert à dire, attention, on ne va jamais en arriver là. Mmh. On va juste installer des badges électroniques et automatiser les chaînes de montage. Donc, okay. c'est significatif sur l'époque. Mais donc, c'est pour dire que dans les années 70, après la publication du rapport Nora Mink, qui a été vraiment le rapport commandité aux fonctionnaires sur l'informatisation, qu'est-ce qui va se passer en France si on informatise, il y a eu des secousses, quoi, des vraies secousses sociales, des grèves au PTT, parce que le rapport prévoyait la suppression de dizaines de milliers de postes, de centaines de milliers, je ne sais plus, dans les compagnies d'assurance, dans beaucoup de secteurs avec beaucoup de main-d'œuvre, dans le tertiaire. Et un peu comme maintenant, on a des rapports de ce type qui nous parlent de la prochaine vague de robotisation ou d'informatisation.
Mais du coup, on a des soubresauts, des manifestations, du mécontentement, mais pour autant, pas de gens qui se joignent au clodo et qui vont détruire ou jeter les ordinateurs qu'on leur impose, qui vont les jeter par la fenêtre. Enfin, ils sont un peu seuls, c'est ce que vous décrivez dans votre article.
Oui, alors effectivement, ils sont peut-être à la fin de quelque chose, parce qu'avant, il y a des mouvements qui sont plus des mouvements d'ampleur où chacun peut se joindre, qui ne sont pas comme des actions clandestines. Et puis, ils disent eux-mêmes qu'ils font écho par leur action à énormément de sabotages, qui sont des sabotages professionnels, des sabotages sur les lieux de travail, dont ils disent très directement que c'est d'ailleurs peut-être la bonne stratégie parce qu'ils occasionnent énormément de pertes aux patrons. Et que, voilà, ils font aussi ça et que les attentats d'explosifs ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
En gros, quand on parle de sabotage, du coup, quoi, ils font des mauvaises lignes de code, ils font du...
Oui, tout à fait. Alors, j'avais une...
Alors, l'invité feuillette un livre
qui est assez conséquent, qui est assez conséquent, qui est assez épais, qui a l'air vraiment l'air de référence.
Ça va prendre un moment.
Avec quelques feuilles de PQ, alors, on va dire. Alors,
vous me demandez, non, là, je pense qu'il faut être précis, puisque vous êtes des techniciens et vous avez... Non. Enfin, en partie, pas tous.
Mais... Lui, c'est un très bon technicien à l'interview. Moi, je suis le pisseur de ligne.
Et du coup...
Et on est écouté par des techniciens de l'informatique. Oui, tout à fait. Et donc, c'est très important d'être précis dans ce registre. Et donc, à l'époque, pour vous donner aussi un peu l'ambiance de l'époque, dans les années 70, il y a une Libération est un journal très, très... assez révolutionnaire, très subversif. Et il y a une chronique qui est tenue par un journaliste qui s'appelle Jules Vannes. Et Jules Vannes tient une chronique de comportements subversifs, révolte sociale, toujours très drôle. Et à un moment donné, il fait un dossier sur l'informatique et il demande à ses lecteurs d'envoyer toutes les techniques qu'ils ont trouvées pour saboter l'informatique dans leur travail. Suite à la demande d'un syndicaliste de la SNCF qui dit, ben voilà, ils nous ont imposé l'ordinateur, on ne décide plus, c'est des hausses de productivité, ça pourrit notre boulot, en fait, ça nous pourrit la vie, et donc on voudrait savoir comment le saboter. Et alors les gens envoient des lettres pour dire comment eux, ils font pour saboter les ordinateurs à l'époque. Évidemment, ces recettes ne sont plus valables aujourd'hui.
Mais de la poudre de limaille de fer, si je m'en rappelle bien.
Exactement. Alors, on peut discrètement lancer de la limaille de fer très fine dans les armoires des unités centrales ou périphériques. Une autre solution est de se balader avec un électro-aimant dans la poche près de l'unité centrale ou des unités de disque. Ne pas le faire sur un fichier réservé à la paye.
Ouais, c'est important.
Ah oui, c'est bête.
Un truc plus sioux est d'accéder au disque supportant le système et de modifier une des routines d'entrée-sortie en programmant une erreur apparemment aléatoire. Ou encore, la grenade anti-ordinateur récupérée dans les manifestations. Une bombe de lac bourrée d'un mélange de tiers, d'un tiers de soufre, un tiers de sucre glace, un tiers de désherbant avec un pétard pirate bien fixé comme mèche, résultat garanti.
Ouais, c'est fou que ça soit publié. Aujourd'hui, les gens seraient très linguistiques pour incitation au terrorisme.
Non, Windows 10 s'installe très très bien, sans qu'il y ait de procès.
Ok, donc peut-être des actes comme ça, mais bon, quand même un isolement qui les fait cesser peut-être.
Mais réellement un isolement. Effectivement, en fait, on peut généraliser en disant que ce qui se passe à Toulouse, qui est vraiment, je répète, c'est spécifique à Toulouse, il y a vraiment une sorte de queue de comète de 68 en fait à Toulouse, avec des tas d'actions anticapitalistes en général, souvent anti-État, contre la bureaucratie, contre la hiérarchie. C'est aussi un mouvement anti-autoritaire, qui est aussi imprégné d'écologie politique. D'où l'importance de la lutte contre Golfech. Et c'est la fin d'un mouvement, quoi. Et le clodo s'inscrit là-dedans. Le clodo arrive à la toute fin de ça. Et après ça, ils ne vont pas être rattrapés. On ne va plus entendre parler d'eux. Et donc là, on peut se perdre en conjectures. On peut imaginer qu'ils ont en fait continué à travailler pour les sous-traitants des grosses boîtes, pour les grosses boîtes.
Qu'ils ont changé d'avis, peut-être, comme certains syndicats qui étaient contre l'informatisation et qui ont ravalé leur discours au fur et à mesure.
Effectivement, parce que la question de la critique de cette technologie-là et de la technologie en général, je veux dire, il y a eu une brèche pendant les années 60, mais encore une fenêtre de tir très, très étroite, au sens où c'est resté quand même tabou de critiquer la technologie. On continuait à considérer qu'on pouvait critiquer les inégalités de revenus, on pouvait critiquer des tas d'aspects de la société, mais que c'était suspicieux, parce que ça voulait dire qu'on était un peu archaïsant, qu'on était nostalgique, qu'on était de droite, qu'on était éventuellement pétainiste.
Ah, la critique de la technologie était vue de droite.
La critique de la technologie est ratée. Attaché à des termes très très durs, comme maurassien, comme obscurantiste, comme toute allusion à l'homme des cavernes et la
bougie. Alors que maintenant, ça s'est retourné, parce que le discours anti-écolo, c'est voulait nous revenir au silex et à la torche.
Non, mais ce que je veux dire, on parle de la même chose. Non, non, on parle de la même chose. Ce que je veux dire, c'est que critiquer la technologie, c'était considéré comme être
Primitiviste,
réactionnaire.
Mais c'était un discours de gauche.
Et,
une certaine gauche.
Et c'était effectivement une certaine gauche qui renvoyait ça à ceux qui se risquaient à le faire. Okay, par exemple, la CGT. Par exemple, le Parti communiste. Et donc, au sein même des syndicats, ça a été très, très mal lu. Je veux dire, les communistes ou la CGT ont fait énormément pour l'informatisation de la France et l'automatisation des postes de travail, avec un gros problème qui est très important à analyser et qui se perpétue maintenant. C'est que les gens qui se retrouvent confrontés à des nouveaux logiciels dont ils voient bien, d'un point de vue objectif, qu'ils font régresser leurs droits et qui font régresser leur capacité à exercer leur métier comme ils le voudraient. Par exemple, tout un tas de métiers du social aujourd'hui qui sont informatisés, où la gestion un peu bureaucratique et par informatisée se substitue à la relation humaine. Où l'informatisation accompagne une concentration du secteur, une standardisation des pratiques. Et où les individus ont envie de se révolter contre ça, parce que concrètement,
que les exécutants,
exactement. Et concrètement, c'est à la fois c'est un problème de subordination qui est accru, mais en plus c'est un problème de pratique, c'est-à-dire de goût pour sa pratique. Et mais son métier, c'est le défendre en tant que tel, en tant qu'un certain nombre de pratiques dont on est dépositaire. Voilà. Et par rapport à ça, il reste toujours le tabou de la critique de la technologie. Et c'est, voilà, c'est très très important et c'est quelque chose qu'il faut analyser comme quelque chose d'historique qui a été produit à un moment donné. Cette idée que la technologie égale le progrès.
Donc un tabou qui se met en place vraiment dans les années 90.
Vous écoutez donc sur Radio FMR CPU consacré au clodo avec Célia Izoard, journaliste à la revue Z.
Et donc troisième et dernière partie sur un peu l'héritage du clodo aujourd'hui, dans les années 2000 et puis les années 2010, puisqu'on est déjà dans la deuxième décennie du 21e siècle.
Ouais.
qu'est-ce que ça nous a apporté, si on regarde, si on dit, ok, bon, ils ont existé, j'ai appris ça aujourd'hui. Quels sont l'héritage ? Quel est l'héritage du clodo ? Et est-ce qu'il y a des nouveaux clodos ?
Sans jeu de mots.
Oui, bien évidemment.
On pourrait aller loin.
Cette blague est sans abri.
Bah, politiquement, on est obligé de reconnaître que l'action du clodo était un échec, puisqu'on a carrément oublié leur existence. Donc ça, c'est clairement ce qui signe un échec en matière politique. Mais les contemporains du clodo disaient, c'est bien, ça réveille les consciences, ça nous fait du bien, ça nous oblige à réfléchir au monde qu'on est en train de construire. Comme je disais, ça avait suscité de la sympathie. Aujourd'hui, l'héritage du clodo, je ne sais pas si c'est un héritage en ligne directe.
Et en ligne indirecte,
ça peut être en ligne indirecte. Oui. En tout cas, il y a...
Ou est-ce qu'il y a des gens sans lien, puisque personne ne les connaît, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans le même... pas dans le même moule, forcément, mais dans la même lignée ?
Alors, il y a tout un courant de la critique sociale qui est, et dont je fais partie, évidemment, je suis obligée de m'inclure dedans, qui est un courant qui va considérer que une des dynamiques les plus importantes et les plus singulières du type d'économie dans lequel on se trouve, du type de système dans lequel on se trouve, c'est la dimension technologique et industrielle, c'est-à-dire le type de production qui est mis en œuvre. En disant, voilà, comment s'attaquer au capitalisme ? Eh bien, c'est tout, en premier lieu, en contestant les technologies qu'il met en œuvre, parce que c'est sa grande force. C'est-à-dire avoir la capacité de révolutionner si rapidement les modes de vie et les façons de travailler qui vont aller très très loin dans la façon de modeler des comportements, de modeler des attitudes psychologiques, des opinions, des goûts, des inclinations, et puis évidemment surtout dans le travail et le non-travail, puisqu'il y a énormément de chômage qui est induit par la technologie.
Est-ce que, par exemple, la révolte des taxis, je ne sais plus à quel moment, c'est un espèce de néo-néoludisme, au sens où il rejetait des applications venues des startups de la nouvelle économie, donc encore le même terme. Est-ce qu'on peut le voir un peu comme ça, comme un refus d'une nouvelle technologie qui va casser, voire supprimer un ancien métier ?
Ah ben, tout à fait, puisque l'essence même de l'économie façon Silicon Valley, dans laquelle on est pris, hein, puisque c'est vraiment ça qui tire aujourd'hui les logiques capitalistes, c'est une économie qui se veut disruptive. Elle a un héritage compliqué, on pourrait en parler longtemps, puisque en partie, elle est héritée des mouvements contestataires. En partie, il y a des choses de ces mouvements qui ont été recyclées là, dans cette économie, et notamment son caractère d'inciter à des bouleversements sociaux décomplexés. C'est ce dont elle se targue toujours, ce dont les start-upers toulousains essayent de faire la preuve en permanence.
On va changer le monde.
Ils vont changer le monde, et qui ne veut pas changer le monde sauf que là, c'est changer le monde en portant le même système, c'est-à-dire en réalité en conservant le système. C'est tout le paradoxe.
Quel système, du coup, pour être précis?
Une économie ultra-libérale fondée sur un certain type de finance et un certain type de société. Hein, la start-up étant un modèle typique du bouleversement qui s'est mis en place à partir des années, de la fin des années 70. Mais donc, pour revenir à cette histoire des taxis, de la lutte des taxis contre Uber, oui, il y a une forte dimension de tentative de conservation d'un métier, de certaines pratiques professionnelles face à un modèle dont l'essence est de bouleverser tout ça.
Et c'est vrai que du coup, direct, ils sont taxés de conservateurs, de rétrogrades, limite, puisqu'ils ne veulent pas évoluer. Et que ça rejoint ce qu'on disait, alors peut-être hors micro, je ne me rappelle plus du coup, mais que c'est difficile aujourd'hui de critiquer la technologie et ses apports.
Mais à partir du moment où le système dominant, par exemple les capitaines d'industrie, Airbus, on peut être un peu précis, parce que c'est vrai que quand on parle de système, on se perd vite. Les chefs d'entreprise, les grandes industries françaises par exemple, à partir du moment où eux se targuent d'amener du changement, à partir du moment où eux se targuent d'être la voix du futur, toute force qui va s'y opposer va être réactionnaire, va être conservatrice. Puisque oui, nous, on peut dire d'une certaine manière qu'on préfère conserver un état de fait plutôt que celui qui nous est imposé. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va changer la société, mais d'une manière tellement différente que la meilleure manière de pouvoir garder les moyens de changer cette société, c'est au moins de garder le petit truc qui restait, quoi, qui n'a pas été complètement balayé. Et je pense que ça, c'est le genre de réflexion qu'on fait dans plein de métiers aujourd'hui. Par exemple, il y a un collectif qui lutte, qui s'est mis un peu en branle et qui a sorti des manifestes contre l'informatisation, la numérisation à l'école. Et là encore, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, l'école de la République, là, elle pose quand même énormément de problèmes, elle dysfonctionne, c'est un système de reproduction des inégalités sociales. Enfin, on a vraiment beaucoup de reproches à lui faire à cette école-là. Mais les plans de numérisation de cette école, ils sont assez catastrophiques en termes de ce qui reste encore de possibilités pour l'individu subjectif qui enseigne. pour essayer de faire son travail correctement, de nouer des liens, des vraies relations avec les élèves, par exemple.
Sur l'école, enfin, c'est pas le sujet. C'est vrai que ça, qu'on veut le travailler, justement, où là, on est au-delà, justement, on n'arrive pas à ce gain de productivité par l'outil numérique. On est plus face, en fait, à des situations qui sont complètement gadgets, comme les tablettes. On se rend compte que c'est pas fait pour créer ou pour écrire, c'est juste fait pour consulter. Et le tableau numérique qui pose beaucoup de soucis, justement, pour les professeurs qui sont plus distractifs que réellement support de cours.
Oui, effectivement. Et puis, on voit très bien pourquoi c'est fait, ça. On voit très bien que l'impuissance des politiques face à une vraie réflexion, un vrai changement de l'école, elle se solde par la volonté d'apporter des moyens tangibles, de dire ah ben on a au moins là les tablettes, elles sont réelles quoi, on peut les compter, on sait combien ça a coûté, on a déployé ces moyens là et personne ne peut en douter.
On met du matériel mais pas de la réflexion sur l'outil, c'est ça que vous dites ou...
Du matériel et pas des vraies réformes. Mais
parce que par exemple j'ai rencontré les gens de la Compagnie du Code qui est une start-up mais une coopérative. Et qui veulent faire en sorte que les enfants des 5-6 ans apprennent à coder, à programmer plutôt pour s'approprier cet outil qui est maîtrisé par une petite élite encore, quoi. Et ils disent justement, soyez vous-même des scribes parce qu'il faut, sinon on est illettré en fait dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que du coup ça c'est c'est la même chose que vous dites mais à l'autre prisme en fait, c'est avoir des... Enfin, non, en fait, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est... D'un côté, vous dites il faudrait peut-être pas mettre tant d'informatisation dans l'école. Et eux, ils disent, vu qu'elle est là, autant apprendre et devenir son propre maître. C'est...
Oui.
C'est quelque chose que vous appelleriez de vos voeux ou bon, c'est pas tout, du tout ce que...
Ça peut se défendre. C'est un peu compliqué, cette histoire. Bah, déjà, moi, je constate qu'il y a un symptôme, quand même. C'est que... disons, une grande partie des élites industrielles, du monde lié à l'informatique est favorable à ça.
Mmh. Donc, il y a un loup.
Donc déjà, c'est un peu compliqué de dire... Parce que ça revient vraiment à façonner l'école pour les besoins de l'industrie, pour le besoin
De
l'économie. Oui. Et c'est toujours le débat sur l'école. Mmh. Est-ce qu'on va vers un principe de réalité qui serait de dire ben, on va donner des travailleurs.
On a besoin de programmeurs, donc programmons des programmeurs.
Ou est-ce qu'on va ouvrir vers justement ce qui pourrait nous envoyer vers un autre monde possible. Le monde dans lequel on vit est saturé d'écran, saturé d'informatique. Et ça a un réel effet sur nos capacités, ne serait-ce que manuelles. Nos capacités à fabriquer, à être un petit peu autonome quand il n'y a pas d'électricité, par exemple. Enfin, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Ouais. Bon. Après, je pense que...
Et c'est un sacré débat qu'on va peut-être avoir prochaine émission, Xavier. Parce que là, je pense qu'on n'aura pas trop le temps, mais une petite dernière question. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ouais. 2 minutes. Bon, on a été très dans le négatif, mais dans une observation critique de tout le mouvement qui nous amène à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour peut-être pas l'inverser, mais pour au moins se poser les bonnes questions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Ou tout simplement, quoi.
En plus de
l'action
du Clodo.
Oui. En plus de quoi? Non, mauvaise question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, tout simplement, aujourd'hui, pour améliorer les choses à votre sens?
Moi, je me place du point de vue d'une catastrophe écologique déjà majeure. Enfin, je pense que ça, c'est...
On ne peut pas la nier quand on voit la part de consommation pour un pays, justement, des data centers, voilà. et les taux de renouvellement des terres rares qui sont très, très peu récupérés sur les déchets c'est électroniques. Oui.
Et donc, on a un problème énorme au niveau de l'extractivisme, de la consommation d'énergie. On n'a pas, on a pas encore trouvé des moyens de faire de l'énergie qui ne soit pas... Un gros problème écologique. Hein. Oui. On n'en a pas des solutions pour cette quantité-là. Donc, une des priorités, c'est d'abaisser, mais considérablement, la quantité d'énergie. Et ça, c'est une chose. Mais après, on a des problèmes sociaux, d'inégalité, de violence sociale qui sont inouïs, je veux dire. Donc, par rapport à ça, il faut arrêter les frais. Moi, je pense sérieusement qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre... au goût du jour, c'est la capacité d'interruption, surtout au niveau de la technologie. La capacité de dire, ben, ces choses-là dont on nous, qu'on nous annonce pour dans 10 ans, par exemple, un robot humanoïde dans chaque foyer, ben, ça, il faut absolument se donner les moyens collectivement de le refuser. Mais le refuser, ça ne veut pas dire en tant qu'acheteur lambda, dans 10 ans, je ne l'achèterai pas. Ça, ça n'a aucun sens. La société ne se transforme pas comme ça. La société, elle se transforme quand collectivement on va dénoncer des intérêts privés qui se font passer pour des intérêts collectifs. Et c'est exactement le problème qui se pose.
Parce que le robot dans 10 ans, c'est la même chose que le micro-ordinateur à la maison. Oui. C'est, on ne sait pas trop pour qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais on va leur dire qu'ils en ont besoin.
Oui, et puis on trouve déjà, d'ores et déjà, des tas d'applications fantastiques qui amènent les gens à croire qu'ils ne peuvent déjà pas s'en passer. Par exemple, s'ils ont une personne âgée à la maison, et que c'est même trahir cette personne âgée que de la priver de ce robot. Je veux dire, il y a une propagande très forte qui s'exerce là-dessus. Et imaginez, je veux dire, ce que ça veut dire de produire des millions de robots humanoïdes. C'est vraiment extrêmement vorace comme objet. Et les micro-ordinateurs aussi le sont. Et qui les produit? Dans quelles conditions? Ça, c'est des choses qu'on sait.
C'est un autre débat qu'on pourrait avoir aussi.
Ouais. Et c'est aussi le débat de la critique de l'informatique. C'est-à-dire une informatique qui serait réellement une technologie qui serait appropriée et qui ne serait pas tributaire d'une division mondiale du travail, qui ne serait pas tributaire de l'extraction de terres rares aux quatre coins de la planète.
Un ordi bio, en fait. Mais je ne sais pas si c'est faisable.
Même pas bio.
Enfin, il y avait eu l'idée d'un téléphone durable où tu pouvais interchanger les pièces, qui est fait par une start-up allemande, mais ça reste extrêmement cher.
Moi, je suis très sceptique, parce que je pense que c'est presque impossible. Mais en tout cas,
ralentir.
Travailler très sérieusement à ce recyclage et arrêter les frais, au sens où la course, la fuite en avant, la refuser. Mais refuser cette fuite en avant, c'est refuser l'essentiel du fonctionnement de la société d'un point de vue économique.
Bon, ben, matière à discuter.
Moi, en tant que co-organisateur des crypto-parties, je citerai juste Eric Hughes, justement, lors de la deuxième crypto-partie qui a eu lieu en Europe en 2012. Il disait, en fait, le principal problème que l'on a actuellement dans la société de surveillance, c'est qu'il faut remettre le personnel dans l'informatique personnelle. Et à mon sens, c'est un peu ça qu'on a oublié, c'est que, justement, on avait la possibilité de créer dans cet univers, et malheureusement, c'est devenu de simples terminaux aux mains de on ne sait pas qui, sur lesquels on n'a plus vraiment de gestion. Et il faudrait pouvoir justement reprendre individuellement le contrôle justement sur ces terminaux pour en refaire quelque chose d'individuel.
Enfin, c'est le mot de la fin
personnel. Ouais, parce que j'ai rien trouvé d'intelligent à dire.
Mais non, mais il faut bien voir que... Enfin, là aussi, il faut revenir aussi à l'histoire de l'informatique, mais pas seulement en France. C'est-à-dire dans la Silicon Valley...
Globalement, oui, on est d'accord.
Il y avait aussi une division du travail terrible. Je veux dire, c'était des femmes mexicaines qui montaient les circuits. Je veux dire, l'informatique a-t-elle déjà été quelque chose de personnel en ce sens-là? Et ça, c'est la question.
Il y a eu un petit moment de hobbyiste, mais après, voilà. Et c'est un peu dommage.
Quand est-ce qu'elle peut intégrer les contraintes écologiques? Quand est-ce qu'elle peut intégrer les rapports de classe? Voilà.
C'est clair que là, on a beaucoup
Plein de questions à se poser en cliquant sur nos ordinateurs toute la journée, ce soir, demain.
Célia Isoard, en tout cas, merci beaucoup d'être venue. C'était extrêmement enrichissant et intéressant.
Et je voulais juste citer
la référence. Oui.
La référence, la série, la revue Z qu'on trouve à Terra Nova le 7, le 9 et le 10 surtout, qui est aussi en kiosque actuellement à Terra Nova à Toulouse.
En librairie, toutes les bonnes librairies.
Qui est vraiment très intéressant.
Le numéro 9 est consacré au principe de la technopole, la ville de l'innovation.
Oh là là,
critique de la technopole.